Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Poète, chanter, il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Lefer, bonjour.
Bonjour.
Comment te portes-tu ?
Ça va très bien.
Bien. De qui, de quoi nous parles-tu ?
Je vais vous parler de l'Anschluss en 1938 de l'Allemagne sur l'Autriche.
Joyeux événement.
Joyeux événement. Écrit par Éric Vuillard, écrivain né en 68. C'est notre génération.
Absolument.
Qui ne fait pas œuvre d'historien, mais donne son avis. Voilà, c'est vraiment la grande différence avec un historien, c'est-à-dire qu'il raconte les événements, il y a des éléments historiques, mais surtout il commente, il essaye de comprendre pourquoi l'injusticiable a pu être fait. Et c'est ça l'intérêt de ce bouquin, c'est de ne pas être dans l'histoire, c'est d'être dans le récit et de dire tout vraiment clairement ce qu'on pense des personnages et de ce qu'ils vivent. Ce qui en fait un roman et non pas un livre d'histoire.
Donc il y a un point de vue.
Il y a un point de vue.
L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Hitler exige tout d'abord l'annulation du plébiscite autrichien. Hitler exige ensuite le départ de M. Schuschnigg, qui à la radio annonce « Je cède à la force ». Hitler exige la nomination comme chancelier de Seyss-Inquart, qui fait appel aux forces allemandes et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. Les avions à croix gammée survolent Vienne. Hitler exige. Un mouvement de résistance s'esquisse parmi les nationaux autrichiens. Mais les premiers soldats allemands ont franchi la frontière. Les agents de la Gestapo sont envoyés en estafette. Les mécontents sont refoulés. Personne ne viendra troubler la paix. La marche triomphale d'Hitler sur Vienne va commencer. Le Führer a quitté Munich en automobile. Sur tout le parcours de Braunau à Linz, il est l'objet de formidables ovations et les troupes allemandes, elles aussi, sont fêtées.
Thank you.
Ils étaient 24, près des arbres morts de la rive. 24 pardessus noirs, marron ou cognac. 24 paires d'épaules rembourrées de laine. 24 costumes trois pièces. Et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent dans le grand vestibule du palais présidentiel de l'Assemblée. Mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée, il n'y aura plus de président, et dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement. Seulement un amas de décombres fumants. Pour le moment, on dévisse 24 chapeaux de feutre, et l'on découvre 24 crânes chauves ou des couronnes de cheveux blancs. On se serre dignement la main avant de monter sur scène. Les vénérables patriciens sont là, dans le grand vestibule. Ils échangent des propos badins, respectables. On croirait assister aux prémices un peu guindées d'une garden party. Les 24 silhouettes franchirent consciencieusement une première volée de marche, puis avalèrent un à un les degrés de l'escadrain en s'arrêtant parfois pour ne pas surmener leur vieux cœur. Et, la main cramponnée à la tringle de cuivre, ils grimpèrent, les yeux mi-clos, sans admirer ni l'élégant balustre ni les voûtes, comme sur un tas d'invisibles feuilles mortes. On les guida par la petite entrée, vers la droite, et là, après quelques pas sur le sol en damier, ils escaladèrent la trentaine de marches qui mènent au deuxième étage. J'ignore qui était le premier de cordée. Et peu importe au fond, puisque les 24 durent faire exactement la même chose, suivre le même chemin, tourner à droite, autour de la cage d'escalier. Et enfin, sur leur gauche, les portes battantes étant grandes ouvertes, ils étaient entrés dans le salon. La littérature permet tout, dit-on. Je pourrais donc les faire tourner à l'infini dans l'escalier de pan rose, jamais ils ne pourraient plus descendre ni monter. Ils feraient toujours en même temps l'un et l'autre. Et en réalité, c'est un peu l'effet que nous font les livres. Le temps des mots, compact ou liquide, impénétrable ou touffu, dense, étiré, granuleux, pétrifie les mouvements, méduse. Nos personnages sont dans le palais pour toujours, comme dans un château ensorcelé. Les voici foudroyés dès l'entrée, lapidifiés, transis. Les portes sont en même temps ouvertes et fermées, les impostes usés, arrachée, détruite ou repeinte. La cage d'escalier brille, mais elle est vide. Le lustre scintille, mais il est mort. Nous sommes à la fois partout dans le temps. Ainsi, Albert Feugler monta les marches jusqu'au premier palier. Et là, il porta la main à son faux col, transpirant, dégoulinant même, éprouvant un léger vertige. Sous le gros lampion doré qui éclaire les volets de marche, il rajuste son gilet, défait un bouton et chancre son faux col. Peut-être que Gustav Krupp fit une halte sur le palier lui aussi et lança un mot de compassion à Albert, un petit apophtègme sur la vieillesse, enfin bref, fit montre de solidarité. Puis Gustav reprit sa route et Albert Feugler resta là quelques instants, seul sous le listre, grand végétal plaqué or avec au milieu une énorme boule de lumière. Enfin, ils pénétrèrent dans le petit salon. Donc là, on est tout au début du livre. C'est le moment où les nazis convoquent tous les grands industriels, Opel, Krupp, etc., etc., pour s'assurer du soutien de l'économie allemande aux nazis. Alors là, c'est un peu l'introduction. Et puis après, évidemment, on le sait, on connaît l'histoire de toute façon. Ils ont suivi, ils ont joué le jeu et ils se sont soumis au diktat du dictateur.
We'll be right back. Finalement, en lisant ce premier chapitre, on se dit, mais si cette réunion n'avait pas eu lieu, peut-être qu'Hitler n'aurait pas pu accéder au pouvoir.
Accéder, si, il y était, mais
accéder à ce pouvoir économique et absolument. De prendre la main mise sur l'ensemble de l'Allemagne, puis de l'Autriche.
Oui, s'installer, en tout cas, installer son pouvoir. Il est certain que c'était pas un facteur négatif. Il est toujours difficile de refaire l'histoire et de savoir ce qui aurait pu se passer si telle ou telle chose ne s'était pas produite. Mais en l'occurrence, évidemment, le fait que les milieux économiques, en quelque sorte, versent 3 millions de Reichsmark aussitôt pour les élections du 5 mars, ça n'a pu évidemment qu'aider le parti nazi dont les finances étaient exsangues à installer son pouvoir, oui, bien sûr. Et puis ensuite, il y a toute la participation du monde économique qui s'arrête pas, évidemment, à cet épisode. Il va y avoir une sorte de consanguinité très grande entre le régime et puis un certain nombre de grands patrons.
Mais comment vous est venue l'idée, l'envie de vous arrêter sur cette journée du 20 février 1933, et particulièrement cette réunion que vous décrivez magnifiquement. Comment vous est venue d'abord cette idée? Ensuite, on va parler de vos méthodes de travail, mais...
Alors c'est toujours difficile, on reconstruit toujours un peu a posteriori la façon dont les idées sont venues. Les livres peuvent venir au départ, le livre lui-même est venu d'ailleurs, il est venu de la lecture des mémoires de Churchill, ou un épisode qui porte sur, pendant l'Anschluss, donc en mars 38, une panne de la Wehrmacht, une panne moteur, de 70% donc des véhicules moteurs auraient été en panne au moment de l'entrée en Autriche. Alors évidemment, ça m'a fait beaucoup réfléchir, puisque c'est pas seulement le fait que ça nous rappelle, qu'il y a quelque chose de chaplinesque là-dedans, c'est surtout que, évidemment, la responsabilité du coup des puissances, de la France et de l'Angleterre, n'est pas la même, est engagée d'une autre manière, si la Wehrmacht n'était pas prête à ce point, à ce moment-là. Donc, du coup, ça m'a fait réfléchir, et puis d'autres épisodes se sont agrégés à celui-ci, et qui ont à voir, d'une certaine façon, avec la compromission. Et bien sûr que, du coup, la fin de journée du 20 février 33 est une compromission absolument exemplaire. Alors, elle m'intéressait pour, je crois, deux raisons. La première, c'est qu'au fond, au premier abord, elle nous surprend. C'est-à-dire le fait de voir entrer dans une pièce où on a 24 des plus grands chefs d'entreprise, Hermann Göring et ensuite Adolf Hitler, fait un effet curieux. On a l'impression de quelque chose d'exceptionnel, d'une compromission inouïe. Et en réalité, à la seconde analyse, tout de suite, ce dont on se rend compte, c'est que nous savons tous que ces choses-là se produisent dans d'autres proportions, bien sûr, mais au fond, tous les jours. C'est-à-dire, il suffit de feuilleter n'importe quel livre portant sur la vie de n'importe quel grand chef d'entreprise pour le voir sur le perron de sa villa avec tous les dictateurs du monde, au fond. Et puis la seconde raison, sans doute, est liée au fond à quelque chose qui flotte aujourd'hui. Vous savez, on critique beaucoup la jeunesse d'entretenir un rapport à je ne sais quelle théorie du complot. Enfin, moi, je regarde peu les forums, donc c'est possible. Mais en tout cas, là, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a eu un véritable complot, puisqu'au fond, à Nuremberg, il y avait une accusation qui était complot contre la paix. Et cette fin de journée du 20 février 33 était évidemment un des éléments majeurs de l'accusation.
Et en plus, ce que vous nous racontez, c'est que ce sont des noms de groupes à l'époque, enfin d'industries à l'époque, qui sont devenus aujourd'hui des groupes extrêmement importants et qui sont dans notre quotidien, à la fois dans notre mémoire collective, mais aussi bien dans notre quotidien. Ces 24 chefs d'entreprise, c'est pas n'importe qui dans l'histoire, finalement pas seulement l'histoire allemande, dans notre histoire à tous, dans notre histoire européenne.
Oui, tout à
c'est
fait.
C'est Opel, c'est Telefunken, ce sont les propriétaires. Alors, ils ont changé de nom, évidemment, mais pas tous d'ailleurs.
Non, pas tous. C'est vrai qu'on peut prendre un ascenseur. En général, c'est un ThyssenKrupp ou alors c'est un Otis, dans ce cas-là américain. Donc effectivement, les objets sont porteurs de... Vous savez, dans l'histoire de la littérature, au fond, je crois que la description et le rôle de l'objet a une place importante. On voit chez Balzac la grande description d'inventaire qui est sans doute liée à l'arrivée au pouvoir de la bourgeoisie, à la façon dont elle se met en scène. Je crois qu'aujourd'hui, à l'étape du capitalisme avancé où nous vivons, eh bien, les objets sont porteurs d'autres choses. D'abord, d'une marque, donc, qui est une personne morale. Et ces personnes morales sont très puissantes, puisqu'elles ont de quoi lutter contre les États. On le voit, imposer d'ailleurs leur forme de justice. Et puis aussi, la plupart de ces produits sont faits avec des matériaux qui viennent de toute la Terre et sont donc, en quelque sorte, un concentré de nos méfaits.
Vous parliez tout à l'heure de, donc, il y a cette journée du 20 février 1933. Il y a plusieurs événements qui sont absolument passionnants dans votre livre et que vous détaillez. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, finalement, la Wehrmacht, dont on imaginait qu'en 1938, elle était rentrée en Autriche comme ça, victorieuse à toute vitesse, pour annexer l'Autriche, l'Anschluss. Sauf que vous dites autre chose. Vous dites, c'est alors qu'un minuscule grain de sable se glissa dans la formidable machine de guerre allemande. Il y eut d'abord une rangée entière de blindés sur le bas-côté. Hitler, dans la Mercedes du Sécarté, les regarda avec mépris. Puis ce furent d'autres véhicules de l'artillerie lourde, immobiles au milieu de la route. On eut beau klaxonner, hurler que le Führer devait passer, rien à faire. Les chars ramaient dans la colle.
Visite de courtoisie. Un penchant obscur nous a livré à l'ennemi, passif et rempli de crainte. Depuis, nos livres d'histoire ressassent l'événement effrayant où la fulgurance et la raison auraient été d'accord. Ainsi, une fois que le haut clergé de l'industrie et de la banque eut été converti, puis les opposants réduits au silence, les seuls adversaires sérieux du régime furent les puissances étrangères. Le ton monta à mesure avec la France et l'Angleterre en un mélange de coups de force et de bonnes paroles. Et c'est ainsi qu'en novembre 1937, entre deux mouvements d'humeur, après quelques protestations de pure forme à propos de l'annexion de la Sahare, de la remilitarisation de la Rhénanie ou du bombardement de Guernica par la Légion Condor, Halifax, Lord Président du Conseil, se rendit en Allemagne à titre personnel, à l'invitation d'Hermann Göring, ministre de l'Air, commandant en chef de la Luftwaffe, ministre du Reich à la forêt et à la chasse, président du défunt Reichstag, le créateur de la Gestapo. Voilà qui fait beaucoup. Et pourtant, Halifax ne tique pas. Il ne lui sembla pas bizarre, ce type lyrique et truculent, antisémite notoire, bardé de décorations. Et on ne peut pas dire qu'Halifax a été entourloupé par quelqu'un qui cachait son jeu, qu'il n'a pas remarqué les tenues de dandy, les titres à non plus finir, la rhétorique délirante, ténébreuse, la silhouette entripaillée. Non. À cette époque, on était très loin de la réunion du 20 février. Les nazis avaient abandonné toute retenue. Et puis, ils ont chassé ensemble, ri ensemble, dîné ensemble. Et Hermann Göring, qui n'était pas avare en démonstration de tendresse et de sympathie, lui qui avait dû rêver d'être acteur et qu'il était, à sa manière devenu, a dû lui taper sur l'épaule, le charrier même un peu. Le vieil Halifax et lui jeter au visage quelques boniments à double sens de ceux qui laissent leur destinataire pantois, un peu gêné, comme par une allusion sexuelle. Le grand veneur l'aurait-il enveloppé dans son écharpe de brume et de poussière ? Pourtant, Lord Halifax, tout comme les 24 grands prêtres de l'industrie allemande, devait en savoir un bout sur Göring. Il devait un peu connaître son histoire, sa vie de putschiste, son goût pour les uniformes de fantaisie, sa morphinomanie, son internement en Suède, le diagnostic accablant de violence, de désordre mental, de dépression, ses penchants suicidaires. Il ne pouvait pas s'en tenir aux héros du baptême de l'air, aux pilotes de la Première Guerre, aux marchands de parachutes, aux vieux soldats. Ce n'était pas un naïf ou un amateur, Halifax. Il devait être trop bien renseigné pour ne pas trouver un peu curieuse cette promenade, au cours de laquelle on les aperçoit tous deux, dans un petit film, admirer le parc à bisons où Göring, furieusement décontracté, dispense ses leçons de bien-être. Il ne peut pas ne pas apercevoir l'étrange petite plume qu'il porte au chapeau, le col de fourrure, la drôle de cravate. Peut-être qu'il aime lui aussi la chasse, Halifax, comme l'aimait son vieux père. Alors il a dû prendre bien du plaisir à la Schorschheide. Mais il n'a pas pu ne pas voir l'étrange veste de cuir que porte Hermann Göring, ni le poignard à la ceinture, ne pas entendre les allusions sinistres enrobées de grasses plaisanteries.
C'est déjà un premier portrait édifiant.